2007, le maire de Rome, Aurel, et le président du conseil départemental et sénateur de l'époque, qu'on appellera Néron, se détestent. Une haine si puissante que longtemps, sur les routes départementales qui traversent Gondor, vous ne trouverez aucun panneau indiquant Rome. La légende dit que Néron menaçait de mille tourments celui qui oserait poser un seul panneau indiquant le chemin de Rome. Peut-être, pensait-il alors, pouvoir effacer toute existence de cette ville maudite, tenue par son plus grand ennemi. Qui plus est, Néron n'avait qu'un seul but, emmerder Aurel. Et pour ça, il est prêt, tel un seigneur féodal, à sacrifier sa progéniture au combat. Ainsi, il enverra son fils, pas très prodige, appelons-le Brutus, pour désinguer Titus et lui piquer son siège de député. Le hic, la faute de goût, c'est que les deux sont du même parti de droite que le nouveau président fraîchement élu, Nicolas Sarkozy. Néron, qui fut ministre sous Mitterrandus et Chiracus, va d'ailleurs faire le pied de grue devant l'Élysée afin d'adouber Brutus. Seulement voilà, Titus n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Et Titus et Sarko se respectent, ils se sont longuement côtoyés à l'Assemblée nationale. Et malgré toutes les manœuvres de Néron, qui vont de la pression sur les maires locaux jusqu'au harcèlement de l'Élysée, il se murmure d'ailleurs à l'époque que Sarkozy a de l'urticaire dès qu'il entend prononcer le nom de Néron, le candidat légitime de l'UMP pour la députation du Gondor en 2007, ce sera bien Titus. Le choix de Néron d'envoyer sa progéniture a rendu la situation grotesque et l'équipe de Macron en profite pour faire des blagues douteuses sur les affiches de campagne. Pendant les élections, il y a la phase visible du jour. Conférences de presse, réunions, serrage de main sur le marché, porte à porte et la phase nocturne, beaucoup plus inavouable et souvent bien plus rigolote. La nuit, tout est permis, ou presque, et la créativité des équipes concurrentes bat son plein. Course-poursuite, cache-cache, décoration d'affiches, de permanence, de local de campagne. Les nuits sont courtes et les petits matins parfois surprenants. Combien de fois je me suis étranglée à 8h du matin en voyant que notre affichage de la veille avait été saccagé. Et combien de fois j'ai ri au feu rouge en redécouvrant nos frasques noctambules. Ça fait partie du jeu. Une victoire électorale se joue bien sûr sur un programme, sur un homme, et trop rarement une femme, mais le mental compte beaucoup. Vos troupes doivent être surmotivées, survoltées, l'adrénaline au taquet. Et pour ça, il faut transformer la campagne en match, avec des challenges et des fous rires. Quoi de plus simple et de plus grisant que de rire aux dépens de l'adversaire ? À gauche comme à droite, c'est un sport que nous avons largement pratiqué à Rome. Le duel Titus versus Brutus donne donc des idées maléfiques à la team Macron. Please allow me to introduce myself. I'm a man. C'est son fidèle lieutenant, Stanislas le Slave, qui va s'amuser à coller des petits messages « Merci papa » sur les affiches de Titus, fils d'Aurel, et sur celles de Brutus, fils de Néron. À l'époque, je suis super investie dans la campagne de Titus. Je ne la dirige pas, mais je suis dans l'équipe encadrante, et ses affichettes m'agacent. Je décide donc de mener l'enquête. On m'a dit que Stanislas le Slave est au collage le soir. Le garçon a un mandat d'élu. Qui plus est, sa femme est le bras droit de Macron. Et je sais que si je le prends en flag, je marquerai des points et j'aurai un dossier. Un soir, comme dans un roman de gare, muni d'un appareil photo et d'un complice garé un peu plus loin dans la rue, je planque. Et bingo ! Je fais de superbes photos de Stanislas, qui ne s'y attendait pas. Je revois son air surpris et sa main qui file vers mon appareil photo. Malgré le stress de la situation, nous sourions tous les deux. Maintenant, il sait que l'équipe Titus est organisée. L'œuvre de Stanislas Slave, dans son ensemble, avec ses attaques sur Titus, seront pour moi une source d'inspiration importante, jusqu'au cantonal de 2015. Titus finira par emporter la législative de 2007, et Brutus repartira loin de Rome, sans plus jamais refaire parler de lui. Aurel et Néron vivront leur bataille finale pendant les sénatoriales suivantes. Néron perdra son poste, Aurel ne sera pas élu non plus, mais savourera l'élimination de son vieil ennemi. Peu après sa déconvenue aux élections sénatoriales, Néron laisse la présidence du Gondor à un de ses poulains. Mais même retiré de la politique, Néron va tout faire pour continuer à pourrir la vie d'Aurel. Il ira jusqu'à donner un coup de main à Macrin lors des élections municipales de 2014 face à Titus, créant une improbable alliance entre un ancien ministre de droite et un maire socialiste. Loin des idéaux et des discours de meeting, les rivalités et les ambitions personnelles font de la politique un jeu de dupes où trop souvent l'électeur est floué. Depuis longtemps, les cartes sont floues à Rome et les coups bas pleuvent. Et encore aujourd'hui, Rome subit l'héritage de ces guerres fratricides. Quand je vous disais que Dallas à côté, c'est une bande d'amateurs. En 2014, donc, la mairie de Rome est convoitée par Macrin, qui veut garder sa place, par Titus, par Karl, qui prend la tête d'une liste mi-FN qui s'assume, mi-FN qui ne s'assume pas, mi-promesse en latin, mi-anti-Vatican II, par Robin Desbois, qui mène une liste composée en partie d'anciens membres de l'équipe de Macrin. Et ouais, à gauche aussi, on rejoue Rémus et Romulus, et de citoyens plutôt à gauche. Et par Joseph, ancien conseiller municipal de Macrin et ancien socialiste qui est passé chez Mélenchonus. Prenons un moment, si vous voulez bien, pour apprendre à connaître l'ensemble des protagonistes. Titus, ça c'est bon, vous savez qu'il est le fils d'Aurel et qu'il est député. Ancien conseiller de Chiracus, il est élu depuis 2002 à l'Assemblée. Karl, lui, est un fonctionnaire employé par le conseil départemental du Gondor. C'est un personnage aux cheveux bruns, à mi-chemin entre un Zemmour jeune et un Gérard Jugnot dans un célèbre film français humoristique traitant de la Seconde Guerre mondiale. Grand amateur de scoutisme, Karl est à la tête d'une famille aussi nombreuse qu'une équipe de foot. On le croit se promenant dans les rues de Rome vêtu d'un imper noir. Il porte sur lui le parfum des croisades et de l'encens.
Vous savez, un grand conquérant est un homme seul, toujours. Regardez votre Napoléon, il a écrit des lettres bouleversantes à Joséphine devant Moscou qui brûlait. Ah. Et moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger.
Robin Desbois est un écolo convaincu, un peu rêveur. C'est un personnage de roman. Sa personnalité charismatique entraîne dans son sillage une bande de potes qui rêvent du pouvoir des fleurs pour faire choir Macrin. Robin Desbois se fera malheureusement emporter par la maladie au cours de la dernière mandature. Enfin, il y a Joseph, le Benjamin de la troupe, ancien socialiste. Il a rejoint Mélenchonus. Joseph est un élu de métier qui n'hésite pas à parcourir des kilomètres pour garder sa place. Ainsi, il habite Rome, mais il s'est fait élire conseiller régional d'un autre département que celui du Gondor. Une sombre histoire de parité et de place sur une liste. Après tout, les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur.
Du côté de Titus, on s'est mis au boulot assez tôt afin de réunir les 35 noms qui composeront la liste. Malgré cela, en janvier, on est encore juste et combler les dernières places se révèle être un exercice difficile. Surtout que la parité nous oblige à avoir autant d'hommes que de femmes. On bouclera de justesse. La liste se compose donc d'une majorité de gens bien, mais également d'un pourcentage de pénibles et de traîtres. De ceux que Titus choisit et de ceux qu'il est obligé de choisir. C'est comme ça que Mireille, qui a trahi Aurel, rejoint la liste et ça fait grasser des dents au sein même des militants UMP. Faut dire que Mireille, qui je vous le rappelle est censée être dans l'opposition de Macrin, lui a plutôt fait des politesses tout au long du mandat. C'est à coup d'œillades complices et de compliments mutuels que les deux se répondent au conseil municipal. D'ailleurs, Mireille arrive un jour au bureau de Titus et elle lui déclare tout de go « Écoute Titus, si je ne suis pas parmi les 5 premières de ta liste, je te préviens, je pars avec Macrin qui m'a promis un poste d'adjointe. Lui. » Ce jour-là, je suis à deux doigts de sortir le thé à la menthe et les macroutes. Et elle est pire qu'un vendeur de tapis. Elle négocierait de la glace aux Esquimaux. Mireille finira donc en haut de la liste. Ceci dit, ce ne sera pas la pire des aventures. Le plus compliqué reste à venir. Une liste municipale, c'est un mélange improbable de 35 personnes qui savent qu'en cas de défaite, très peu pourront siéger dans l'opposition et qu'en cas de victoire, il n'y a que 10 postes d'adjoints à pourvoir. Que pendant des mois, il va falloir travailler d'arrache-pied, se coltiner des réunions le soir, du porte-à-porte. Heureusement, la vie nocturne est beaucoup plus amusante. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai la semaine prochaine.